Chapitre 2. Les cris de trois enfants qui jouaient dans le séjour éveillèrent Nicole. Elle enfilait sa robe de chambre quand Ali vint lui demander si elle n'avait pas vu la poupée préférée de Nikki.
« Elle doit être sous son lit »,
répondit-elle. Sa fille retourna préparer ses bagages. Nicole entendait Richard dans la salle de bain.
« C'est pour bientôt »,
se dit-elle, à l'instant où Nikki apparaissait sur le seuil de la pièce et annonçait en souriant
« Je vais aller voir mon papa ».
Nicole tendit les bras et l'enfant courut à sa rencontre.
« Je sais, ma chérie ».
Elle la serra contre elle, puis caressa ses cheveux.
« Tu vas me manquer ».
Peu après, les jumeaux se ruaient dans la chambre.
« J'ai faim, Madame Wakefield !»
dit Galilée.
« Moi aussi !»
précisa Kepler. À contre-cœur, Nicole lâcha sa petite fille.
« Votre petit déjeuner sera prêt dans quelques minutes. »
Ils terminaient leur repas quand Max et Éponine arrivèrent avec Marius.
« Devine, oncle Max !»
dit Nikki, sans laisser à sa grand-mère le temps de saluer les poquettes.
« Je vais voir mon papa. »
Les 4 heures s'écoulèrent rapidement. Richard et Nicole fournirent des explications à Max et Éponine, puis ils durent recommencer à l'intention des nouveaux mariés. Leur enthousiasme s'estompait au fur et à mesure que le moment du départ approchait. Nicole sentit sa gorge se serrer.
« Détends-toi et souris. Ce n'est pas en t'abandonnant au chagrin que la séparation sera plus facile. »
Max, le premier, leur souhaita un bon voyage.
« Viens donner un gros bisou à tonton Max, princesse !»
dit-il à Nikki. La fillette s'exécuta. Puis Max se leva et rejoignit Ali qui s'entretenait avec sa mère.
« Prends bien soin de ta fille !»
lui recommanda-t-il en l'étreignant.
« Et ne te laisse pas marcher sur les pieds !»
Il serra la main à Richard et demanda aux jumeaux de le suivre à l'extérieur. Tous étaient désormais profondément abattus. Bien qu'elle eût décidé de garder son calme en toutes circonstances, Nicole s'affola lorsqu'elle prit conscience qu'ils se sépareraient dans quelques minutes. Patrick, Nai, Benji et Éponine décidèrent de suivre l'exemple de Max et étreignirent une dernière fois le trio sur le départ. Nicole voulut embrasser Nikki, mais la fillette était sortie jouer avec les autres enfants. Ali fit ses adieux à Éponine et se tourna vers Nicole.
« Tu vas me manquer, maman. Je t'aime tant. »
Elle eut fort à faire pour contenir ses émotions.
« Tu as comblé toutes mes espérances, ma fille. »
dit-elle avant de murmurer.
« Sois prudente. L'enjeu est si important. Je sais, et ça m'effraie. J'espère ne pas te décevoir. Je n'ai aucune crainte à ce sujet. »
déclara gaiement Nicole en lui tapotant les épaules.
« Souviens-toi simplement de ce que le criquet a dit à Pinocchio. »
Ali sourit.
« Laisse-toi toujours guider par ta conscience. »
« Archie est là !»
cria Nikki. Nicole chercha son mari du regard.
« Où est-il? Je ne lui ai pas fait mes adieux. »
pensa-t-elle, brusquement inquiète. Ali se dirigeait vers la porte, muni de 2 sacs à dos.
« Où est oncle Richard ?»
voulut savoir Patrick.
« Ici !»
répondit une voix. Elle provenait du cabinet de travail que Nicole gagna d'un pas rapide. Richard était assis par terre, au milieu d'une pile de composants électroniques. Elle resta un instant sur le seuil pour reprendre haleine. Il l'entendit et tourna la tête.
« Salut, chérie !»
fit-il nonchalamment.
« Je trie les pièces de rechange de mes interprètes automatiques. »
« Archie est là. »
Il jeta un coup d'œil à sa montre et dit « Le moment du départ est venu. » Il ramassa une poignée de circuits et les fourra dans son sac à dos. Puis il se leva et vint vers elle.
« Oncle Richard !»
cria Patrick.
J'arrive dans une minute.
Nicole se mit à trembler dès qu'il la prit dans ses bras. Hé, détends-toi. C'est pas la première fois que la vie nous sépare. Son angoisse était si grande qu'elle ne pouvait parler. Elle essayait d'être stoïque, mais c'était impossible. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais son mari. Elle glissa une main derrière sa nuque pour l'embrasser. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle eût aimé arrêter le temps, prolonger à jamais cet instant. Elle grava les traits de Richard dans son esprit, puis déposa avec tendresse un baiser sur ses lèvres. « Je t'aime, » dit-il. Pendant quelques secondes, elle crut qu'elle ne pourrait rien lui répondre, mais elle finit par murmurer
« Je t'aime, moi aussi. »
Il prit son sac à dos et lui fit un petit signe de la main. Elle resta sur le seuil pour le regarder s'éloigner vers l'entrée.
« Souviens-toi !»
lui murmura alors la voix d'Homais. Nicky n'en crut pas ses yeux. Un autruche aux ors les attendait juste au-delà des portes de la cité d'Émeraude. Elle trépigna d'impatience pendant que sa mère remontait la fermeture à glissière de son manteau.
« Je peux lui donner à manger, maman? Je peux ?»
Leur monture était accroupie sur le sol, mais Richard dut malgré tout soulever la fillette pour l'installer sur le dos de l'animal.
« Merci, papy, »
dit-elle, lorsqu'elle fut confortablement nichée dans la cuvette.
« Nous avons tout minuté avec soin, »
déclara Archie quand ils furent sur le chemin traversant la forêt.
« Nous approcherons du camp au moment où les soldats prendront leur petit déjeuner afin qu'ils puissent nous voir tous. »
« Comment saurons-nous ce qu'ils font ?» s'enquit Richard.
« Des quadroïdes les surveillent. Dès leur réveil, votre ami Timmy les survolera et lâchera des tracts annonçant notre arrivée imminente. Il est précisé dans ce texte que des lucioles nous précéderont et que nous agiterons un drapeau blanc, comme vous nous l'avez suggéré. »
Nicky vit des yeux briller dans la pénombre du sous-bois.
« C'est amusant, pas vrai ?»
demanda-t-elle à sa mère. Ali ne fit aucun commentaire. Archie arrêta l'autruche aux ors 1 kilomètre au sud du campement des humains. Les lanternes et autres lumières évoquaient des étoiles scintillant dans la nuit.
« Timmy devrait lâcher les tracts à cet instant, » dit-il.
Ils venaient de progresser dans l'obscurité pendant près d'un terre. Ils avaient préféré se passer des services des lucioles plutôt que de risquer de se faire repérer avant l'heure prévue. Nicky dormait paisiblement, la tête sur les genoux de sa mère. Richard et Ali étaient tendus. « Que ferons-nous s'ils ouvrent le feu avant que nous ayons pu dire quoi que ce soit ?» avait demandé Richard à Archie quelques instants plus tôt.
« Nous battrons en retraite. Et s'ils nous pourchassent avec des hélicoptères munis de projecteurs ?»
avait fait remarquer Ali.
« Il nous faudra près de 4 Woden pour regagner l'abri de la forêt, »
avait admis Archie. Timmy vint leur annoncer en jacassant qu'il avait accompli sa mission. Richard et Lavien se firent ensuite leurs adieux et l'homme crut lire une émotion nouvelle dans les grands yeux de la créature dont il caressait le ventre du veteux. Peu après, alors que Timmy repartait vers la cité d'Émeraude, 2 lucioles posées sur le bas-côté du chemin acquirent de la luminosité, puis se dirigèrent vers le camp des humains. Richard partit en tête, brandissant le drapeau blanc. Ali, Archie et la fillette endormie le suivaient sur l'autruche aux ors, bien en retrait. Arrivé à 400 mètres du campement, Richard utilisa ses jumelles. Il pouvait voir les soldats monter la garde et scruter la nuit dans leur direction. Il en dénombra 26, dont 3 qui braquaient sur eux leurs fusils. Comme convenu, Ali, Nicky et Archie descendirent de leur monture. Archie renvoya l'autruche aux ors vers la cité d'Émeraude et la délégation s'avança vers les militaires. Nicky n'avait pas dormi assez longtemps et était grognon. Elle finit par se taire quand sa mère lui intima sur un ton autoritaire d'interrompre ses jérémiades. Archie marchait entre les deux adultes. Nikki tenait la main d'Ali et devait trottiner pour rester à sa hauteur.
« Salut les gars !»
cria Richard en agitant le drapeau blanc dès qu'il pensa être à portée de voix.
« Je me présente, Richard Wakefield. Ma fille Ali, ma petite fille Nikki et un envoyé des octopodes m'accompagnent. »
Ils sortirent des ténèbres de Rama, révélés par la clarté des lucioles, et les soldats manifestèrent leur étonnement en voyant pour la première fois un des extraterrestres qu'ils étaient venus combattre. Un officier s'avança.
« Je suis le capitaine Enrico Pioggi, » dit-il.
« Le commandant de ce camp, j'accepte votre reddition au nom des forces armées du Nouvel Éden. » Moins d'une demi-heure s'était écoulée depuis que Timmy avait lâché les tracts, annonçant leur arrivée, et les humains n'avaient pas eu le temps de décider quel sort il convenait de leur réserver. Après avoir obtenu la confirmation qu'un homme, une femme, un enfant et un extraterrestre approchaient du camp, le capitaine Pioggi avait contacté par radio le QG de New York pour réclamer des instructions. Son supérieur lui avait simplement répondu de placer les prisonniers sous bonne garde et d'attendre les ordres. Richard avait prévu qu'aucun officier n'oserait prendre des initiatives sans consulter Nakamura au préalable. Pendant le long voyage en Autruchosaur, il avait dit à Archie qu'il devrait mettre ce délai à profit pour démontrer aux soldats que les arguments du gouvernement étaient sans fondement. Et quand la curiosité incita les hommes de troupe à se regrouper autour d'eux, après la fouille d'usage, il leur déclara d'une voix forte « Je vous présente un de ces êtres que nous appelons les octopodes. Ils sont très intelligents, bien plus que nous dans certains domaines, et 15 milliers d'entre eux vivent dans l'hémicylindre sud. Ma famille et moi, nous avons vécu plus d'un an sur leur territoire, de notre plein gré, et nous avons pu constater qu'ils ont un sens moral très développé et sont pacifiques. Ma fille Ali et moi sommes venus avec un représentant de ce peuple dans l'espoir d'éviter un affrontement meurtrier entre nos deux espèces.
« Vous ne seriez pas l'épouse du docteur Robert Turner ?»
demanda un soldat.
« La femme enlevée par ces monstres ?»«
C'est bien moi, »
confirma-t-elle.
« Mais il est faux de dire que les octopodes m'ont enlevée. Ils souhaitaient établir des contacts avec nous et ils m'ont demandé de les suivre parce qu'ils m'estimaient doué pour apprendre leur langage. »«
Ces machins parleraient ?»
fit un autre militaire. Comme convenu, Archie n'avait jusqu'à présent rien dit. Les hommes le fixèrent en ouvrant de grands yeux quand des chapelets de couleurs firent le tour de sa tête.
« Il vous salue et vous affirme que son peuple ne vous veut aucun mal, »
traduisit Ali.
« Il désire en outre vous informer qu'il lit vos propos sur vos lèvres et qu'il se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous souhaiterez lui poser. »«
C'est pas une blague ?»
fit un soldat. Pendant ce temps, le capitaine Pioggi se tenait à l'écart et fournissait par radio un rapport à son supérieur, resté à New York.
Oui, colonel. Des couleurs, du rouge, du bleu et du jaune, des sortes de rectangles qui se promènent autour de son crâne.
Quoi, colonel?
La femme de ce médecin semble savoir ce qu'elle signifie.
Non, colonel, pas des lettres, seulement des bandes multicolores.
Oui. L'extraterrestre s'adresse à nos hommes.
Non, la femme sert d'interprète. Selon elle, il peut lire sur les lèvres.
C'est ça, comme les sourds. Et elle se charge de traduire ses réponses.
Aucune arme, colonel.
Des jouets, des vêtements et des trucs bizarres qui seraient selon Wakefield des composants électroniques.
Oui, j'ai bien dit des jouets.
Dans le sac de la petite fille.
Non, nous n'avons pas de scanner.
Bien, colonel. Vous ne pourriez pas me dire si ça risque d'être long?
Quand le capitaine Pioggi reçut finalement l'ordre de transférer les prisonniers à New York par hélicoptère, Archie avait eu le temps d'impressionner les soldats en leur démontrant ses capacités. Il avait commencé par multiplier mentalement des nombres de 5 et 6 chiffres.
« Qu'est-ce qui nous prouve qu'il fournit les bonnes réponses ?»
avait demandé une jeune recrue.
« Tout ce qu'on voit, c'est des couleurs qui ne veulent rien dire.
Mon garçon, avait répliqué Richard en riant, ne venez-vous pas de vérifier sur la calculette du lieutenant ce qu'a traduit ma fille? Mais peut-être croyez-vous qu'elle est un calculateur prodige.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Mais c'était la mémoire phénoménale d'Archie qui sidérait le plus les soldats. Sur une suggestion de Richard, l'un d'eux écrivit sur un bout de papier plusieurs centaines de nombres qu'il lut ensuite à haute voix. L'octopode les répéta par l'entremise d'Ali sans faire une seule erreur. Certains militaires soupçonnaient une supercherie. Ils pensaient que Richard devait adresser des signaux à Archie. Mais quand ce dernier renouvela son exploit sous une étroite surveillance, tous les sceptiques furent convaincus. L'atmosphère était très détendue quand le capitaine reçut l'ordre de transférer les prisonniers. La première partie de leur plan avait réussi au-delà de leurs espérances, mais Richard était conscient que le plus difficile restait à venir lorsqu'ils embarquèrent dans l'hélicoptère qui les conduirait à New York. Ils ne restèrent qu'une heure sur cette île. Des gardes armés vinrent les chercher sur l'aire d'atterrissage de l'esplanade ouest, confisquèrent leurs sacs à dos et les escortèrent jusqu'au port. Richard, qui portait Nikki dans ses bras, eut à peine le temps d'admirer ses gratte-ciels préférés qui allaient se perdre dans les ténèbres. Ils traversèrent la moitié nord de la mer cylindrique à bord d'un des yachts que Nakamura et les membres de son entourage utilisaient pour faire de la navigation de plaisance sur le lac Shakespeare. Aucun soldat ne leur adressa la parole.
« Papy !»
murmura Nikki à Richard qui n'avait pas répondu à un grand nombre de ses questions.
Ces hommes ne savent pas parler ?
Un véhicule tout-terrain les attendait sur un quai construit pour faciliter les embarquements vers New York et l'hémicylindre austral. Les humains avaient taillé un plan incliné dans la falaise, non loin de l'ex-habitat des aviens Cécile. Étonné que ces hommes ne les aient pas directement emmenés au Nouvel-Éden en hélicoptère, Richard fit quelques calculs. Il conclut qu'en raison de la hauteur importante de la paroi rocheuse et d'une probable pénurie de pilotes expérimentés capables de s'aventurer là où la gravité artificielle de Rama se réduisait fortement, ces appareils n'étaient pas autorisés à dépasser une certaine altitude. Il en découle qu'ils doivent faire transiter tout leur matériel et toutes leurs troupes par ici. Une Garcia conduisait leur véhicule. Il y avait devant et derrière eux deux autres engins occupés par des soldats en armes. Ils accélérèrent dans la plaine centrale. Richard était assis à l'avant, à côté de la biotte. Archie, Ali et Nikki avaient pris place à l'arrière. Quand il se tourna pour rappeler à l'octopode quelles étaient les cinq catégories de biotes qu'on trouvait au Nouvel-Éden, la Garcia déclara
« Le prisonnier Wakefield doit regarder droit devant lui. » Et se taire.
Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop ? Demanda joyeusement Richard. La Garcia lâcha le volant et le frappa durement au visage.
Le prisonnier Wakefield doit regarder droit devant lui et se taire,
répéta-t-elle. Effrayé par cet acte de violence, Nikki se mit à pleurer. Ali tenta de la faire taire et de la rassurer.
J'aime pas cette Garcia, maman.
La nuit régnait dans le Nouvel Éden lorsqu'ils franchirent le poste de contrôle. On transféra Archie et les trois humains dans une voiturette électrique conduite par une autre Garcia. Richard remarqua immédiatement qu'il faisait presque aussi froid à l'intérieur de l'habitat qu'à l'extérieur. Le véhicule cahota sur une route mal entretenue, puis vira vers le nord, non loin de ce qui avait été la gare de Positano. Une vingtaine de personnes se pelotonnaient autour de feux de camp allumés sur les quais désaffectés. Quelques-unes dormaient sous des cartons.
« Que font ces gens, maman ?»
demanda Nikki. Ali s'abstint de répondre, car la Garcia s'était tournée vers elle pour la foudroyer du regard. Il voyait les néons de Vegas quand la voiturette prit une allée qui traversait un bosquet. Un des rares vestiges de ce qui avait été autrefois la forêt de Sherwood.
le véhicule s'arrêta devant une grande maison de plain-pied croulante. Deux orientaux armés de pistolets et de dagues approchèrent et firent signe aux passagers de descendre avant de renvoyer la biotte.
« Suivez-nous !»
ordonna un des hommes. Archie et ses compagnons entrèrent dans l'habitation puis furent guidés vers le bas d'un long escalier débouchant dans un sous-sol sans fenêtre.
« Vous trouverez de quoi boire et manger sur la table !»
dit un garde. Ils repartaient vers l'escalier quand Richard demanda
« Attendez une minute. Nos sacs à dos, nous en aurons besoin.
Nous vous les rendrons après les avoir fouillés. Quand verrons-nous Nakamura ?»
L'oriental se contenta de hausser les épaules avant de gravir rapidement les marches.